Avant que les ombres s'effacent est le dernier roman de Louis-Philippe d'Alembert.
C'est un livre à la saveur particulière où le vaudou s'oppose au pogrom, l'errance à l'enfermement et la générosité à la misère. L'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert nous invite dans « Avant que les ombres s'effacent », édité par Sabine Wispeiser, à suivre Rubin Schwarzberg, jeune juif polonais et sa famille dans une Europe déchirée par la montée du nazisme, puis la guerre et ses alliances militaires. De Pologne, d'où ils sont chassés lors de la Nuit de Cristal, à l'Allemagne où il connaîtra les affres de Buchenwald, un temps avant d'en être libéré in extremis, Rubin connaîtra aussi les nuits d'ivresse de Paris pour enfin poser ses valises et son stéthoscope, car il est médecin, à Haïti. 70 ans plus tard, c'est un vieil homme paisible mais toujours curieux et généreux que découvre Déborah, une petite nièce qu'il ne connaissait pas, infirmière venue d'Israël en mission d'urgence en Haïti suite au terrible séisme du 12 janvier 2010. Les déracinés d'hier sont les sauveurs d'aujourd'hui. Ce roman est une saga fort bien écrite et passionnante que le prix Orange a déjà couronnée. On y trouve aussi un tableau fidèle et peu réjouissant des régimes autoritaires ou de l'administration, notamment française. Hymne à la tolérance et à l'humanisme, Avant que les ombres s'effacent, nous entraîne dans une histoire pas si lointaine et dont on n'a pas fini de tirer les leçons. Haïti contre Herr Hitler, pointe l'auteur. Je vous propose d'écouter Louis-Philippe d'Alembert, interviewé dans une rue de Manosque durant le Festival des Correspondances. Philippe d'Alembert, votre dernier roman nous emmène à travers l'Europe et à travers plusieurs pays. On démarre en Pologne, puis en Allemagne, en France et jusqu'en Haïti. C'est un panel un petit peu particulier sur la géographie et évidemment la géopolitique du XXe siècle.
Non, pas si particulier que ça. Et à partir du moment où j'ai pris le parti pris, si on peut dire, d'écrire une espèce de saga et qui se déroule sur un siècle, donc en un siècle, on peut faire pas mal de voyages, mais en même temps, dans ce roman, je suis l'itinéraire d'une femme juive, donc ashkénaze, et qui va quitter la Pologne au tout début du XXe siècle à cause d'un premier pogrom et qui va se retrouver en Allemagne. Donc cette famille était bien installée en Allemagne jusqu'en 1933 et l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc ils étaient obligés encore une fois de repartir et en repartant, comme dans beaucoup de familles de cette époque, ça a été une famille un peu éclatée. Il y en a qui sont allés aux États-Unis, d'autres sont montés en ce qu'on appelait à l'époque la Palestine mandataire, dont une partie va devenir par la suite l'État d'Israël. Puis il y en a deux qui étaient rester, qui vont finir à Buchenwald, malheureusement, mais heureusement aussi, ils vont sortir de Buchenwald, et là, c'est le bateau le Saint-Louis, c'est l'arrivée à Paris, et puis voilà, donc c'est l'itinéraire d'une vie et aussi l'itinéraire d'une famille et aux prises avec l'histoire mouvementée du XXe siècle, donc c'est ce qui explique que l'on passe d'un pays à un autre pays jusqu'à l'ancrage, pour le personnage principal, jusqu'à l'ancrage en Haïti.
Votre héros Rubin Schwarzberg a-t-il existé?
Lui, personnellement, non, et c'est une famille fictive à ce niveau-là, même si je me suis inspiré de gens rencontrés ici et là, ou d'histoires dont j'ai entendu parler, et par contre, tous les personnages qui tournent autour de lui, et ce sont des gens qui ont vraiment existé. Le personnage haïtien qu'il rencontre à Buchenwald, il a vraiment existé. J'ai juste déplacé le personnage de 1944 à 1939, donc pour les besoins de la narration. Ensuite, le poète Roussan Camille a existé, la poétesse Ida Faubert a existé, le poète Léon Lalo a existé. Donc ce sont des gens qui ont vraiment existé. C'était aussi une manière pour moi, tout en créant cette histoire, cette saga familiale avec beaucoup d'humour, etc., de rendre aussi hommage à la littérature et aux poètes, aux écrivains haïtiens.
Le héros principal connaît l'Allemagne très lourde avec la montée du nazisme. Il fuit, il arrive en France et en France, il découvre aussi une vie complètement débridée et il vit avec cette vie chevillée au corps pendant quelques instants.
Oui, parce que c'est une période, moi, qui me fascine. C'est vraiment la période où j'aurais aimé vivre en France. Bien sûr, il y a du fantasme. Bien sûr, il y a les livres que j'ai lus. Bien sûr, il y a les films que j'ai vus. Mais cette France, ce Paris des années folles, comme on dit, c'est, je l'imagine tellement foisonnant, avec tant de vie, avec de la musique, ça swing de partout, des boîtes de jazz, des boîtes de musique afro-cubaine. Et du coup, pour moi, c'était tellement important de mettre le personnage dans ce Paris-là pour pouvoir me faire plaisir d'une certaine façon. Et puis, il va tomber sur sur la petite, toute petite communauté haïtienne de l'époque qui va l'accueillir et qui va, dont un poète, Roussan Camille, qui est un fêtard, qui va l'introduire dans les boîtes, notamment le bal nègre, ou la boule blanche, ou la coupole, etc. Et c'est vraiment, c'est comme si, là aussi c'est pareil, je n'ai pas vécu cette période, mais c'est comme si on s'attendait, ou le peuple de Paris et de France en général s'attendait à vivre une nouvelle guerre. Donc on se disait, tiens, autant en profiter parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc c'est comme ça que je le vois, et c'est ce que je voulais faire. Je voulais que ce personnage, qui a déjà connu deux exils, parce qu'il est parti de Pologne très jeune, ensuite il part d'Allemagne, et là il se retrouve à Paris, c'est comme s'il mettait derrière lui tout ce qu'il avait vécu, donc il dit, d'accord, j'accepte, je me lâche, je fais la fête et je vis, et ça a été comme une parenthèse enchantée pour lui, justement.
Vous avez parlé de musique, l'un des thèmes de votre livre, c'est la mixité, et la musique que vous citez, c'est évidemment Benny Goodman, c'est évidemment Django Reinhardt, et là on est dans la mixité.
Ah oui, Benny Goodman, qui est avec des musiciens noirs, c'est Benny Goodman, le petit juif états-unien, avec des musiciens noirs états-uniens, on va voir Django Reinhardt, le gitan, entre guillemets, si on peut dire, le manouche, ou bien il y a Stéphane Grappelli, avec le nom qu'il porte, donc c'est pas la peine. Et puis, surtout dans cette période-là, il y avait des groupes, beaucoup de groupes afro-cubains avec des haïtiens dedans. Il y avait Salnavre de Pestre, un haïtien, il y avait un autre Thibaut qui était pianiste et ainsi de suite. Donc c'est des gens qui se retrouvaient à Paris, dans le Paris de cette époque-là, et qui mélangeaient toute la musique qui venait de partout. Mais vraiment, c'était pour moi cette mixité dont vous parlez, mixité culturelle, mixité ethnique et mixité qui mélange tout ce qui vient de partout, sans distinction, sans hiérarchisation surtout. C'est-à-dire qu'on est tous, au fond, les mêmes êtres humains, peu importe d'où l'on vient et peu importe sa couleur de peau ou sa religion.
Après l'Europe, Rubin est accueilli en Haïti et on profite de ses connaissances, notamment de ses connaissances médicales. Il devient un médecin réputé et c'est important dans cette petite île.
Ah oui, il devient un médecin réputé avec, je dirais, le bon et le mauvais côté. Et le bon côté, c'est qu'il est accueilli, tout le monde l'accueille. Lui, il essaye de rendre un petit peu de ce qu'il a reçu. Le mauvais côté, c'est que bon, certaines élites ne pensent qu'à une chose, c'est qu'à le marier à leur fille, parce que c'est un bon parti, hein, entre guillemets. Mais c'est un pays qu'il va prendre à bras le corps, c'est un pays dont il va apprendre la langue, il va y avoir même une espèce de baptême vaudou comme ça, donc il devient haïtien en plein sens du terme, et puis il finit par devenir un haïtien comme un autre. Et d'ailleurs, quand il parle des haïtiens, il dit nous, et quand il ouvre une bouteille de rhum pour la première fois, il va verser et faire la libation, verser trois gouttes par terre, et sa petite cousine qui arrive d'Israël, qui dit mais ça c'est pas une pratique juive, il dit oui, nous autres haïtiens, nous buvons toujours avec les invisibles, nous buvons toujours avec les morts, nous ne buvons jamais seuls.
Et c'est pourtant la même famille. J'y arrive justement à Déborah et à 2010, cette année terrible pour Haïti, évidemment le tremblement de terre du mois de janvier. Elle vient avec une mission humanitaire, elle vient d'Israël, elle va voir son grand-oncle qu'elle ne connaît pas et qui lui connaît très bien Haïti. Et là, il y a une filiation très particulière et en même temps, cette volonté de soigner, cette volonté de panser les plaies.
Oui, cette volonté de panser les plaies et surtout, si on prend ça au premier degré, on va dire que c'est une petite tribu, donc qui restent liés malgré les membres qui se sont séparés. Donc ils sont restés liés, ils sont restés en contact. Mais c'est aussi une façon de rendre un peu de ce qu'on a reçu. Parce que Déborah sait que son grand-oncle a reçu, et même Yehoshua, qui était l'autre encore grand-oncle, on va dire, ont été accueillis dans ce pays-là, qu'ils ont fait leur chemin, qu'ils sont devenus citoyens de ce pays. Donc, et ça correspond en fait à quelque chose de tout à fait réel. Au lendemain du tremblement de terre et du 12 janvier 2010 en Haïti, le deuxième pays à atterrir en Haïti, ça a été Israël, et qui a envoyé un certain contingent de médecins, de secouristes, etc. Donc c'est une manière de renvoyer l'ascenseur aussi, parce que Haïti avait pris ce décret-loi en 1939 qui proposait à tous les juifs qui souhaitaient de prendre la nationalité haïtienne pour pouvoir fuir l'Europe ou bien d'obtenir un sauf-conduit. Et puis Haïti aussi, en 1948, a été parmi les pays qui ont voté la fondation de l'État d'Israël. Israël. Donc il y a eu ce retour en fait d'ascenseur, entre guillemets, si je peux dire ça, j'aime pas le mot, parce que quand Haïti l'a fait, ne pensait pas à l'époque qu'il y aurait eu un tremblement de terre aussi catastrophique en 2010, mais ça a été fait, puis l'État d'Israël s'en est souvenu, et puis l'État d'Israël, quelque part, a tendu la main aussi. Quoi.
Grâce à vous, on plonge évidemment dans l'histoire d'Haïti, et c'est important, c'est intéressant, surtout à l'heure actuelle, où Haïti a des besoins d'aide internationale et de soutien, et pas uniquement financier, d'autres choses, évidemment. Il y a aussi une analyse particulière que vous faites, Louis-Philippe d'Alembert, sur l'occupation, entre guillemets, des prisonniers en Allemagne par les Allemands, et qui ne s'ennuyaient pas et qui travaillaient jusqu'à la mort. Et par contre, à Drancy, en France, les prisonniers, eux, ne savaient pas quoi faire. Et on sent là la différence de culture entre la France et l'Allemagne, même si c'est sur ce côté dramatique de la prison et de l'enfermement.
Oui, c'est plutôt Argenteuil. Il faut dire aussi à la décharge, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, des Français, c'est que le camp d'Argenteuil venait à peine d'être ouvert. Donc, il n'y avait pas encore d'organisation. Et forcément, un côté un peu, j'ai envie de dire, sarcastique de ce personnage, Ruben Schwarzberg, qui, même s'il est né en Pologne, mais est arrivé en Allemagne à l'âge de 5 ans, donc il a quelque part pris la mentalité allemande, est devenu bien, qui aime les choses bien organisées, bien faites. Ça peut sembler à un stéréotype, mais c'était ça. Et quand il arrive, il tombe dans un camp qui vient d'être ouvert, qui est complètement désorganisé, alors qu'il avait été à Buchenwald quelque temps. Il se dit, bon, il y a quand même une différence. C'est un peu de l'humour sur la corde raide, si vous voulez, mais c'était ça. Il ne pouvait pas s'empêcher de comparer les deux formes, d'incarcération.
Vous avez participé ici même à Manosque à une rencontre avec votre compatriote James Noel. Vous avez parlé de la créolité et évidemment du poids de la poésie et du poids de l'oralité dans la culture haïtienne. Vous avez bien reçu les informations et les réactions du public?
Oui, ça m'a étonné déjà de voir autant de monde pour participer à 15h à une rencontre littéraire un samedi après-midi. Et alors qu'il y aurait autre chose à faire, j'imagine. Et ça m'a fait très très plaisir. Et les gens ont réagi très bien, surtout pendant les moments de lecture. Les gens ont compris l'humour qui ont accompagné le livre. Parce que pour moi, écrire un roman de ce type, c'était pas seulement faire connaître un épisode méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était aussi trouver un ton, une langue, et qui soit assez proche de ce qu'on appelle l'humour juif, cette forme d'autodérision qu'on trouve dans l'humour, dans la culture juive. Et le public a senti, le public a réagi, et ça m'a fait vraiment très plaisir.
Dernier élément, vous avez reçu pour ce livre le prix Orange, je suppose que ça vous ravit.
Ah ben oui, j'ai reçu le prix Orange, qui est un très bon prix, et avec des membres du jury fantastique, qui sont dont des écrivains comme Eric Orsena, ou bien comme Carole Martinez, Laurence Cosset, qui sont de très grands écrivains, puis des libraires, des lecteurs anonymes, et surtout, très bien dotés comme prix, mais il y a eu aussi le prix France Bleu, page des libraires, puis donc je suis très très content, et aujourd'hui le livre fait partie de la première sélection du prix Médicis, donc je n'ai pas à me plaindre, je dois dire.
On va rester confiant. Merci Louis-Philippe d'Alembert.
Merci à vous.